Avant de commencer, je voudrais exprimer mes remerciements aux organisateurs de cette conférence et à Brigham Young Université, et aussi qui me donnent l'occasion de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais aujourd'hui faire une présentation sur la situation courante en Turquie concernant la liberté religieuse. Et je voudrais commencer en citant une conclusion considérant l'état de la liberté religieuse mentionnée dans le rapport des États-Unis qui dit que la Constitution turque restreint la liberté religieuse. Le rapport dit aussi qu'il y a certaines clauses dans la Constitution turque qui se fie au standard actuel de la liberté religieuse. La liberté religieuse devrait être restreinte pour la protection du public. La Constitution donne par contre des restrictions sur la liberté religieuse. Je pense que cette conclusion est correcte, mais il faudrait peut-être élaborer sur cette conclusion en plus de détails. Ce que je essaierai de faire au cours de cette présentation, c'est de vous donner quelques informations historiques à propos de la relation en Turquie de l'Église ou de la religion et de l'État. Je voudrais exprimer cette situation à deux niveaux. D'abord, à un niveau, je voudrais répondre à la question est-ce qu'il y a un établissement religieux, une association religieuse qui est favorisée par la Turquie? Et je vous dirai tout de suite, et vous pensez que c'est bien sûr, que, comme vous savez, la Turquie se base, considérée comme un pays laïque, d'après la Constitution en tout cas. Mais la réponse dit qu'il n'y a pas d'établissement religieux favorisé. Je voudrais donner plus de détails à ce sujet. La deuxième partie de ma présentation considère l'expression libre de la religion dans la vie publique. Quelle est la situation en Turquie en ce qui concerne donc la libre expression de la religion? En ce qui concerne la question sur les religions établies en Turquie, il faut faire la différence entre l'État et la religion dans le passé de la Turquie, dans le passé donc du royaume ottoman. À l'époque de l'Empire ottoman, comme vous savez, l'État ottoman a utilisé l'islam comme idéologie légitimée. Mais ce n'était pas vraiment un État basé sur les principes musulmans. L'Empire ottoman était un État basé sur des principes tirés du passé nomade des Turcs, qui remonte à bien loin. Car, vous savez, le premier souverain de Turc a été converti à l'islam au 7e siècle. Ce n'était pas vraiment le cas quand la loi islamique, en fait, n'était pas à la base de l'Empire ottoman, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La charia était présentée était autorisé au sein de l'Empire musulman, mais l'Empire était multireligieux en fait. Et il favorisait l'existence de différents groupes religieux avec leurs propres pratiques et leurs lois privées au niveau du mariage, au niveau des familles, des obligations, donc du commerce. Et au niveau public, du droit public, la constitution, au niveau des l'Empire ottoman contrôlait la religion par l'intermédiaire de l'islam. Un peu comme dans l'Empire byzantin, vous aviez un patriarche et un empereur. Et donc, il faut faire la même chose pour l'Empire ottoman, vous aviez un sultan et un représentant de l'islam. Ce genre de système a été aboli en 1920, après l'établissement de la République. Et donc, l'islam comme institution nationale, on a établi une nouvelle institution qui fait que le directeur des affaires religieuses, qui fait partie de l'administration centrale en Turquie, attaché donc au Premier ministre, il n'a pas une existence séparée en dehors de l'État. C'est une institution qui est attachée à l'office du Premier ministre. Qu'est-ce que fait cette institution, donc la direction des affaires religieuses, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite des problèmes et des questions à propos de la population musulmane en Turquie. Je dois ouvrir une parenthèse maintenant pour vous dire que la grande majorité turque est musulmane. Mais nous avons aussi une minorité chrétienne, pas simplement chrétienne, mais également nous avons des juifs. Et leur pourcentage est d'1%, donc c'est assez limité, peut-être moins encore. C'est le résultat, bien sûr, de l'histoire. Mais avant 1923, avant l'établissement de la République, à peu près un tiers de l'Empire ottoman était chrétien. Mais après l'établissement de la République, à la suite de la guerre d'indépendance nationale, il y a eu des accords entre la Turquie et la Grèce, et on a échangé des populations et des chrétiens orthodoxes ont quitté la Turquie pour aller en Grèce. Donc il fallait en parler. Il y a eu également des déportations d'Arabes et de Turcs vers d'autres pays. Alors tout ça, ça crée une société beaucoup plus homogène, musulmane, en Turquie. Et un petit nombre de minorités, mais ils ont le droit de pratiquer leur religion, de pratiquer également l'éducation religieuse, et sur la protection de traités internationaux qui protègent donc les populations non musulmanes en Turquie. L'article 37-45 développe explique cette protection que la Turquie a donc accepté en ce qui concerne la protection des minorités. La Turquie, avec le gouvernement turc, a interprété les clauses qui protègent les populations non musulmanes d'une manière étroite pour établir une conformité avec la pratique de la manière avec laquelle la Grèce traite également ses musulmans. Donc, la population non musulmane a connu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, surtout par rapport aux droits de propriété, à cause du passé ottoman. Une loi est passée au Parlement en 2008, une nouvelle loi, et nous espérons que ça permettra d'avoir un nouveau cadre qui donnera les droits de propriété aux chrétiens et fondations chrétiennes et autres qui ont souffert à cause des pratiques nationalistes du passé. Le problème majeur que la Turquie affronte est dans le domaine de la liberté religieuse et ce qui concerne la différence entre la population musulmane elle-même. Quand on regarde de loin la société turque, à la suite des développements que j'ai tenté de résumer, on peut voir la Turquie comme un pays musulman, une société musulmane. Mais la population musulmane en Turquie a des différences internes. Nous avons un clivage, des différenciations qui créent des frictions de temps en temps entre les sunnis et les autres, les Alawites, qui est un autre groupe, qui sont des chiites. Mais ils ne sont pas chiites à proprement parler. Ils sont simplement des disciples d'Ali, le frère de Mohammed. Mais leur caractère unique vient entre des traditions chamaniques des anciennes tribus turques et l'islam en tant que tel. Ils n'ont pas de mosquée, par exemple, et ils ne font pas le jeûne pendant le ramadan, par exemple. Ils ont donc des différences. Donc, le directeur des affaires religieuses au niveau de l'État, de ma perspective, qui n'est pas toujours partagée par tout le monde, discrimine un peu contre ces groupes. La façon de. Quand ils se mettent ensemble, comme ces musulmans ne vont pas à la mosquée, ils se réunissent ailleurs. Le directeur des affaires religieuses de l'office du Premier ministre le dit, l'endroit où les Alawites se réunissent n'est pas un endroit pour la religion. Donc il ne peut pas bénéficier de certains avantages ou allocations du gouvernement. Le paiement de l'électricité, par exemple, et de l'eau, parce que ces lieux ne sont pas considérés comme des lieux de culte. Ça a été un jugement qui a été fait par ce directeur des affaires religieuses pour les églises et les synagogues en Turquie. Mais une décision de la justice a dit que les églises et les synagogues sont des lieux de culte. Donc, ils doivent être considérés comme des lieux de culte officiellement et exemptés de certains paiements, certains impôts. Et ils pourraient bénéficier de certaines aides du gouvernement. Donc, ça a été un verdict du Conseil des États. Il accepte les églises et les synagogues comme des endroits, des lieux de culte. Et les musulmans minoritaires dont je vous ai mentionné. Donc, c'est cet établissement que j'appelle donc la direction des affaires religieuses a des discriminations contre certains groupes musulmans à l'intérieur du pays, comme je l'ai mentionné. Cela montre comment l'État considère la religion. La Turquie est un pays séculaire, établi sur les principes de la laïcité, mais il a également un établissement, enfin considère la religion comme importante. Ça explique en détail. Laissez-moi expliquer une autre distinction, un autre clivage qui existe en Turquie. Ce n'est pas le clivage entre les sunnis et l'autre groupe, mais le rapport entre donc la religion et l'État. Les pères fondateurs de la République turque, Atatürk, avaient fait plusieurs déclarations concernant sa compréhension de l'islam à différentes occasions dans son histoire. On peut distinguer déclarations d'Atatürk sur l'islam au début, dans les 1920 et dans les 1930. 1920, c'était la bataille pour l'indépendance. À cette époque, Atatürk, lorsqu'il s'adressait à l'Assemblée nationale, il disait au public, il n'y avait pas simplement des Turcs, des Kurdes, des Bosniens et d'autres ethnicités. Ils étaient donc différents du point de vue ethnique, mais tous étaient. Et donc ils appartenaient à l'islam en fait. Dans les 1920, donc la population à laquelle ils s'adressaient était cimentée par différents groupes ethniques, mais c'est l'islam qui dominait. Après l'établissement de la République, une constitution a été écrite. Cette constitution inclut un article qui dit que la religion officielle de la République est la religion islamique, donc l'islam. C'était donc l'islam était donc la religion officielle de la République. Mais en 1928, tout cela a été aboli, cette clause a été abolie, et en 1937, le principe de laïcité, de laïcisme, comme ça il y a une différence entre laïcité et laïcisme, c'est ce qui fait de la Turquie un pays, une république un peu différente des autres, comme la France. Mais en 1937, après l'abolition des articles en ce qui concerne la religion officielle, la clause disait que la Turquie est un pays est basé sur le principe de laïcisme à l'intérieur de la Constitution. Et cela a continué dans la Constitution de 61 et de 82. Dans la Constitution présente, nous avons une différence. Quand on compare la Constitution passée avec la présente, nous avons une différence. Ce qui concerne donc le statut du directeur des affaires religieuses, je ne sais pas si je suis assez systématique, mais dans la Constitution présente, le directeur des affaires religieuses est décrit comme une institution qui a pour devoir d'établir l'intégrité nationale. Ça montre clairement le côté caché de la religion, des relations de la religion et de l'État. D'un point de vue séculaire, il n'y a pas de constitution, de principe constitutionnel qui favorise une religion, mais en pratique, nous avons une institution qui interprète l'islam d'un point de vue sunni, en accord avec une certaine perception, vision du monde, qui impose cette vue sur les autres populations, avec des éducations obligatoires, avec un contenu religieux. Donc il y avait une certaine interprétation de la loi qui est opposée par d'autres groupes musulmans. Et nous avons donc... Je dois également mentionner que
le
directeur des affaires religieuses, l'office du directeur des affaires religieuses, est protégé par un article de la Constitution. Il y a une autre loi, la loi des partis politiques, l'article 89, qui dit qu'il n'y aura pas de partis politiques qui essaye de changer la constitution du directeur des affaires religieuses. Tout cela ne peut pas être discuté par les partis politiques. Donc, nous avons le principe de laïcisme dans la constitution, et le quatrième article dit que le second article ne peut pas être amendé. Mais l'article 136, qui régularise le département des affaires religieuses, ne peut pas être non plus amendé. Car tout groupe qui amende cet article pourrait créer un parti politique et un programme. Ça veut dire que vous proposez des changements et que vous abolissez le système de religion d'État. Donc tout cela, dans le cas, nous avons eu un cas récemment à la Cour de justice de Turquie à propos d'un parti qui c'était pas vraiment parce qu'il voulait supprimer le département des affaires religieuses, mais parce que il voulait que les filles dans les universités portent donc un foulard. Donc au niveau des relations entre l'État et la religion, d'après la Constitution, et d'après les décisions juridiques, porter un foulard à l'école est une action contre le principe de la laïcité de la République. Donc il ne faut pas en porter. Si vous en portez un, légalement, vous êtes exprimé, vous êtes véhiculé une idéologie antiséculaire. Et bien sûr, vous pouvez être considéré comme un musulman fondamentaliste. Donc, cette question, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette action était tout à fait normale. Donc il va falloir peut-être s'y attarder. Je pense qu'il est temps que je conclue. Avant de conclure, je voudrais vous dire une autre chose. Et peut-être que j'ai manqué de vous le dire jusqu'à présent. À propos de l'islam, dans les années 1930, après l'acceptation du sécularisme, les pères fondateurs de la République turque et leurs successeurs ont été positivistes dans le sens du 19e siècle. Je vais dire, il disait là, que le seul guide dans la vie, c'est la science. Donc l'organisation politique, sociale, éducative de la Turquie doit être basée sur la science, sur le positivisme, c'est-à-dire le progrès et la raison. Ceci a prévalu au niveau de la Cour suprême et des décisions de la Cour de justice, et ça a prévalu au sein de la société turque, où vous avez des gens bien éduqués qui votent pour le parti républicain. Donc c'est l'autre clivage à l'intérieur de cette population sunni musulmane. Donc nous avons des gens qui suivent Atatürk et l'idée que la science nous dirige. Et puis vous avez l'autre aspect des musulmans pratiques sunnis qui voient le monde d'une autre manière. Dans la perspective des droits de l'homme, je voudrais dire que, à propos de Malcolm Evans, il a dit que le développement de la liberté religieuse s'est établi à plusieurs, en suivant plusieurs étapes. La première étape, est la séparation. Et ensuite, la séparation entre l'Église et l'État, et ensuite la protection des minorités, et ensuite la protection des droits de l'homme. La Turquie est maintenant au niveau de la protection des minorités et essaye d'aller tranquillement vers les droits de l'homme, qui est la troisième étape. J'espère que cette transition sera complétée grâce à des réformes. Et bien sûr, si nous sommes admis dans l'Union européenne. Mais la protection des minorités, pour l'instant, est la chose essentielle. Merci.